C'est aussi des chiffres et faits d'annonce. Bon, on a parlé de la COP 21. Moi, la COP 21, là, vous avez une carte sur les contributions des États avec des couleurs différentes selon ce qui. Mais c'est les intentions dont vous parliez tout à l'heure, c'est du poker menteur. Parce qu'il y en a qui parlent en valeur absolue, il y en a qui parlent en valeur relative. D'un PIB en 2030, donc le PIB de tel pays en 2030, bon, à moins que vous ayez une confiance dans les économistes que je n'ai pas, je ne peux pas imaginer que ce soit. Après, le moment de référence pour les émissions de gaz à effet de serre, pour les uns, c'est 90, 2000, 2005, 2015, etc. C'est jamais la même borne. Après, tous les secteurs économiques ne sont pas... Il y en a qui ne mettent pas l'agriculture, pas les transports, pas le nucléaire, d'autres les mettent. Et après, il y a ceux qui comptent les puits de carbone, c'est-à-dire comme les Russes, par exemple, qui disent « Ah oui, mais les forêts, ça capte du carbone. » Donc, ils comptent le nombre d'hectares et puis ils retranchent de ce qu'ils ont émis. Donc, honnêtement, comment c'est possible qu'on puisse annoncer un chiffre comme ce qui a été dit avant la COP 21, c'était « ça fait, on est à plus 3 ». Mais comment ils peuvent faire le plus 3? Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à ce décompte-là. Il me semble vraiment être du chiffre pour marquer les esprits, mais qui n'a pas de sens scientifique. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec un texte final après la COP 21 qui est, comme il annonce, on va essayer d'être à plus 2. Et puis, si on peut, on sera qu'à plus 1,5. Ben, on se dit, ah, on avait entendu il y a un mois qu'on était à plus 3, on est à plus 2, plus 1,5. Bon, ben, c'est bien. Oui, mais c'est de l'esbrouf. Voilà. Là, j'ai dit, là aussi, c'est du canadrail des statistiques. Alors après, des chiffres ambigus. Ben, ça, c'est classique hein, sur le sujet, c'est-à-dire que, et ça, c'est depuis le début, c'est-à-dire qu'on confond corrélation et causalité. Alors, maintenant, le changement climatique, je vous assure, il est dans plein de bouquins de statistiques, comme la démonstration du fait qu'on a confondu corrélation et causalité. C'est-à-dire que, parce qu'on a vu qu'à partir de 1850, la température augmentait en même temps que le CO2 augmentait dans l'air, et que... Donc, on en a conclu qu'il y avait un rapport entre les deux. Alors là, je vous ai mis quelque chose qui est sorti dans un des derniers bouquins de stats américains. Et donc, ça, c'est une traduction française de chez Cassini qui dit « Ah, mais oui, alors vous avez... » Ça, c'est très humoristique pour dire du mauvais usage d'un livre de maths. Hein, du mauvais usage que font les physiciens et les naturalistes de la... la causalité, c'est voilà la courbe de température, alors, je ne sais pas si elle est tout à fait exacte, puis voilà la piraterie. Et donc, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on fait des COP tous les ans, puisque on a une anticorrélation, et donc on voit bien que la piraterie est anticorrélée du réchauffement, et donc si on ne veut pas de piraterie maritime, eh ben, il faut au contraire accélérer le réchauffement. C'est un raisonnement qu'il compare à celui qui est effectué sur le CO2. Deuxième exemple d'embrouille, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est les RCP. Alors, les RCP, bon, Stéphane sait ce que c'est, mais la plupart d'entre vous ne savent probablement pas. C'est-à-dire qu'à partir de, pour le dernier rapport, il y avait déjà avant des scénarios sur les émissions de CO2 qui seraient émises dans le futur compte tenu de l'économie. Alors, maintenant, on les appelle... Ça, autrefois, ça fait des noms A1, A2, B1, B2, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais maintenant, c'est plus pervers. On appelle ça RCP 2,6, 2,4, 4,5, 8,5, 6,5. Et donc, moi, je vois les gens que je rencontre, quand ils voient quelque chose marqué en dessous, RCP 2,5, RCP 4,5, mais ils ne comprennent pas que c'est un scénario. Ils comprennent que c'est une hausse de 2,5, 4,5, hors. Le 2,5, 4,5, 6,5, 8,5, c'est le forçage en watts par mètre carré à l'extrémité supérieure de l'atmosphère. Et donc, un RCP 4,5, ça ne veut pas dire plus 4,5, puisque c'est seulement 1,1 degré à 2,6. Donc, il y a quand même une manière de s'exprimer qui, je dis, crée de l'ambiguïté. Alors... Là, ce que je vous montre, c'est avec une carte parce que je n'ai pas trouvé d'autre moyen. Donc, c'est dans le rapport sur le plan, l'état du climat de la France de Jouzel et Hall, disons, où vous avez un certain nombre de. On vous présente ce que sera le climat de la France en 2021-2050 et 2071-2100. Alors, là, j'ai pris n'importe quoi, quelque chose d'assez simple, le nombre de jours de vagues de chaleur en été. Bon, alors, comme ça, tout le monde a l'air de comprendre de quoi on cause. Et puis après, si vous regardez cette carte-là, vous allez vous trouver avec tout un tas de régions qui sont entre 0 et 2. Alors là, moi, quand j'ai montré ça à tout un tas de gens, ils m'ont dit, c'est bizarre quand même, parce que regarde, 76-2005, donc c'est passé. Donc, au moins, la canicule de 2003, elle a duré plus de 2 jours. Donc, pourquoi est-ce que j'ai la moitié de la France en blanc? Bon. Et l'autre chose, c'est que là, il y a un autre modèle sur la même période qui vous donne une carte, comme vous le voyez, qui, elle, va aller jusqu'à plus de 6 jours. Donc, comment c'est possible de faire passer? Parce que moi, ça m'arrive de discuter avec des gens qui vont essayer de traduire ça pour faire des actions, de leur dire que, ben oui, mais on a tellement modélisé quelque chose que pourtant, vous, en tant que contribuable, vous avez payé à ce que ce soit archivé et qu'on puisse vous dire, eh ben, il y a eu tant de jours. Eh ben non. Alors, en fait, c'est parce que, d'une part, on modélise des données qui ont été mesurées, mais après, ensuite, on les calcule d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le nombre de vagues de chaleur, ce n'est pas non plus le nombre de jours, puisque c'est moyenné sur 5 jours. Donc ça veut dire que pour quelque chose qui a duré 5 jours, le premier et le dernier jour n'y seront pas, de façon évidente, puisque vous avez une moyenne glissante. Donc, en fait, on va perdre en intensité, perdre en durée. Donc on va fabriquer de l'abstrait dont on considérera qu'il est plus intéressant. J'ai discuté avec des médecins qui m'ont dit, mais non, parce que un vieillard qui a à subir 5 jours, 6 jours, 7 jours à 45, il sera sûrement plus malmené à partir du 3e ou du 4e. Donc, il vaudrait mieux avoir les données réelles. Bon, je ne vous dis pas aussi 76-2005, on en reparlera éventuellement tout à l'heure si j'ai le temps. C'est quand même bizarre d'aller chercher à mettre à tout prix 2003 et 76 dans une série de trentenaires, parce que d'habitude on dit 71, 2000, etc. Bon, donc on va tortiller les séries pour arriver à ce qu'elles s'adaptent le mieux possible à ce qu'on veut dire. Donc ça veut dire que globalement, regardez celle-là, c'est dans le futur, 2021-2050, regardez ce que signifie la même couleur que là, le jaune, c'est-à-dire que l'échelle des grandeurs a changé. Donc, quelqu'un qui regarde les cartes, vite fait, et faites le test, hein, c'est sur Internet tout ça. Faites le test, vous verrez, tout le monde comprend que, une fois qu'il a regardé cette échelle-là, il croit que là, on est de 0 à 2, 2 à 4, 4 à 6, et là, c'est de 5 en 5. Donc, un effet perturbant complet, le fait de changer. Voilà. Bon, alors, je passe sur le fait que la probabilité fait aussi rigoler dans les... Je vis dans une famille de mathématiciens et je vous assure que quand je leur montre les choses concernant le changement climatique, il y en a un certain nombre qui rigolent. Et de la même manière, pour la probabilité, ils n'arrêtent pas de m'embêter avec pourquoi est-ce qu'on exprime les probabilités avec ces extrêmement probables, très peu probables, probables, moyennement probables, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Voilà. Qui c'est vraiment pas de la science. Donc, vous vous souvenez, les données sont... Alors, 67-2003, c'est très difficile d'avoir les données de vagues de chaleur, parce que les données de canicule, on peut les avoir. Mais comme on ne parle pas de canicule là, mais de vagues de chaleur, qu'on a changé de nature, les canicules, elles sont définies par la température minimale de la nuit, la vague de chaleur par la maximale. Donc, il n'y a pas de données en libre accès. Et ensuite, quand vous changez de 73 à 2001, ben, vous changez les moyennes. Donc, c'est très difficile d'arriver à récupérer les données pour pouvoir faire quelque chose. Donc, la réitération des calculs même est très compliquée. Et donc, ça, c'est ascientifique. En général, une expérience en science, elle doit pouvoir être reproductible et à partir de là, elle acquiert sa fiabilité. Bon. Et pour moi, tout a été fait pour mettre en évidence des écarts à la norme. Mais à la norme, une norme qui est variable, puisque au niveau sériel, c'est pas toujours la même durée. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout est à charge de dégradation. Alors, on va revenir sur le dernier élément, c'est les images. Alors, c'est bien connu dans les écoles de cinéma ou quelque chose comme ça. Quand on est dans le noir, pas toujours avec des pop-corn dans les mains, ben voilà, on se laisse un peu aller et que par rapport à l'image, on a moins de vigilance qu'on ne l'aurait vis-à-vis des mots en général, d'autant plus qu'à l'école, personne n'a appris à dire où s'arrête l'introduction, quel est le plan, quels sont les mots importants, etc. Pourtant, ça peut se faire sur des films, mais voilà. Et donc, il y a une sorte de laisser-aller avec les images. Alors, les images du changement climatique, mais c'est... Bon, c'est, j'ai mis, c'est du trucage Photoshop. Là, vous en voyez une pour la New York et la Statue de la Liberté. J'en ai choisi une qui ressemble à celle de tout à l'heure. Bon, moi, j'ai l'habitude de regarder des images. Je peux vous dire que bon, celle de tout à l'heure, c'était exactement pareil. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est comme ça dans la pub. On s'est tellement habitué. C'est-à-dire que vous n'avez pas le ciel qui correspond... c'est-à-dire qu'il y a des banques de données de ciel qu'on va coller sur le paysage. Donc, si vous regardez, l'ombre portée du soleil, etc., et c'est incohérent, on peut avoir... Quand il y a de l'eau, il y a toujours un peu de clapotis, donc un peu de vent, mais par contre, si vous regardez des éléments qui sont stables, vous verrez qu'il n'y en a pas, donc en fait, on voit bien que tout est photoshopé dans les images qui sont proposées. Parce qu'une image, non photoshopée, bon, l'interprétation va être nettement plus compliquée. Alors là, on voit bien que... Là, on a trafiqué l'image, hein, parce que faire tenir l'ours, comme tout à l'heure, les deux ours sur quelque chose de... Bon, et qu'il y soit, c'est quand même fortement improbable. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des vraies images. Alors, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Stéphane, mais en même temps, ça veut dire qu'on a bien appliqué la méthode qu'on apprend dans ces écoles, à savoir proposer quelque chose qui est crédible, et qui a l'apparence du vrai, hein. Mais point trop n'en faut, c'est pour ça que j'ai mis celle-là, c'est-à-dire que si vous mettez ça devant le Kremlin, là les gens vont dire non, là t'en fais trop, celle-là non, voilà. Donc on vous apprendra à modifier un peu l'image, mais de façon à ce que ça passe, mais il faut bien prendre conscience que c'est pas des vraies images. Voilà divers procédés qui sont utilisés. Bon, celle-là c'est pas tout à fait celle de tout à l'heure, mais c'est l'amalgame. Ça veut dire qu'on fait croire que les cyclones, la pollution, c'est le réchauffement climatique. Ben, non, c'est pas... Ou alors, je vois pas pourquoi... Enfin, pour moi, c'est des choses qui sont distinctes. Le carbone dans l'air, c'est pas un polluant. Ça peut modifier la composition chimique de l'atmosphère, mais le CO, oui, ça peut être... quelque chose qui est toxique, mais le CO2 non, donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est peut-être de la vapeur d'eau, peut-être que c'est tout à fait autre chose, j'en sais rien. Décomposé avec du soufre ou de l'azote, j'en sais rien. Ça, les cyclones, il y en a, ils n'ont pas de rapport avec le réchauffement en tant que tel. Donc là, il y a une sorte de mixage qu'on peut aussi faire autrement. Celle-là, c'est pareil, c'est dans les conférences d'Al Gore, etc. J'ai mis labellisé tout à l'heure. Parce que c'est clair que le film sur Al Gore a largement contribué à ce qu'il ait le prix Nobel. On fait croire qu'en Chine, il peut y avoir de la sécheresse, des inondations, tout ça en même temps. On fait croire que c'est un pays tout petit, c'est le Liechtenstein, hein, alors c'est côte à côte, et ça s'est produit la même année, alors que ça s'est produit à 20 ans d'écart ou 30 ans d'écart. Bon, forcément, si vous répertoriez les événements paroxysmiques qui sont produits à la surface de la Terre, vous les mettez côte à côte, vous allez avoir l'impression, soit côte à côte, soit l'un après l'autre, que ça s'est produit plus ou moins en même temps. L'autre chose qui est abondamment utilisée dans le début du film d'Al Gore, c'est les images qui sont des glaces de l'Islande. Parce que, mais là, ils disent rien. Il n'y a pas de discours sur ces images. On laisse faire. On laisse les gens regarder de la glace noire. Les gens, ils ont conclu quoi ? Que c'est la pollution par les industries qui a fait ça. Mais non, c'est parce qu'on est en Islande et qu'il y a des volcans qui périodiquement émettent de la poussière volcanique. Et donc, dans toutes les glaces de l'Arctique, vous aurez des strates qui seront des strates grises et qui ne correspondront absolument pas à de la pollution d'origine industrielle. Mais on laisse faire, on ne dit rien. Il n'est pas dit qu'on amalgame, alors que ce n'est pas comme l'affiche. Après, j'ai dit, c'est des images illustratives, et c'est pas de la démonstration. Mais c'est quelque chose, là je vais prendre un exemple que vous avez tous entendu. Moi, je ne comprends pas comment on peut ne pas sursauter quand on entend ça, mais j'entends ça périodiquement par des gens qui sont à Bac plus 5, 10, 14, 20, je sais pas. Ils disent, il y avait des glaciers, c'est d'ailleurs dans le rapport du GIEC, ça a fait un... Moi, j'ai écrit là-dessus parce que je trouve ça complètement scandaleux. Il y avait des glaciers. Et comme il ne neige plus, alors il n'y aura plus d'eau. Moi, c'est quelque chose que, en tant que climatologue, j'ai eu l'impression que tout le monde a vu que toutes les précipitations ne se faisaient pas sous forme de neige, que la majorité c'était quand même sous forme de pluie, et que quand il faisait un peu plus chaud, la neige devenait de la neige fondue qui devenait de la pluie. Et que donc, dire qu'il ne va plus y avoir de précipitations parce qu'il ne tombe plus de neige, ça veut dire qu'on a considéré quelque chose, un maillon manquant complètement oblitéré, qui est le fait que, eh ben, s'il fait moins froid, c'est pas de la neige qui va tomber, mais c'est des gouttes de pluie, de l'eau. Donc on n'aura pas moins d'eau, sauf que l'eau, elle ne tiendra pas sur le bassin versant, elle va aller à la rivière, elle va aller à la mer. Si on fait des infrastructures avec des barrages, on aura autant d'eau qu'on en avait avec de la neige, et même plus, puisque une atmosphère plus chaude, elle peut emmagasiner plus d'eau, donc si elle précipite, elle précipitera plus d'eau. Je vous rappelle qu'à 30 degrés, l'atmosphère peut emmagasiner 30 grammes d'eau par mètre cube, alors qu'à 10 degrés, à 8 grammes, elle est saturée. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de crachats en hiver et de grosses précipitations en été. Donc c'est pourtant ce que je suis en train de vous dire là, un truc qui est récurrent. L'autre chose, c'est que on va utiliser des sortes d'illustrations en faisant croire qu'elles ont un sens. Bon, j'ai mis le camion embourbé du film d'Al Gore. Ça, c'est aussi voilà, une maison qui pivote. Hein. Ça me rappelle quelque chose, une installation faite par un artiste qui était devant la gare du Nord, où il y avait une maison branlante comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait croire? On fait croire que quand le sol est gelé, alors on ne sait pas construire, on ne sait pas circuler sur ce genre de choses. Alors que si c'était complètement... On fait comme si c'était mieux que ce soit gelé. Alors, premier déni, c'est qu'en fait, c'est plus difficile de construire sur un sol gelé que sur un sol pas gelé. Et dans la majorité des maisons construites à la surface de la Terre sont sur des sols qui sont quand même pas gelés. Là, on est obligé de les faire sur pilotis, hein, justement pour qu'elles puissent bouger. Et la deuxième chose, c'est que je ne connais pas l'endroit de la planète où, en été, même aussi bref soit-il, même s'il est de 15 jours, où le sol ne dégèle pas en surface. Ça s'appelle du molissol. Et donc, c'est normal que ça dégèle en surface et que ça bouge. C'est pour ça qu'on fait des maisons comme ça. Bon, là, j'avais pris l'exemple de Venise, parce qu'on montre les aqualtas systématiquement pour faire croire que... alors que ça, j'aurais pu prendre Monaco aussi. Hein. On sait ce que c'est que de construire un polder. Et donc, ça veut dire qu'on a construit une digue. On sait construire une digue et donc on sait se protéger de l'inondation si on le veut. Si on le veut. Alors moi, ce que je vois, c'est que là-dedans, ça fait appel à des choses qui remontent, au début de l'humanité. C'est-à-dire que la peur des catastrophes, hein, du sol qui se dérobe sous vous. L'inondation, c'est vraiment récurrent. Là, je vous ai mis des images médiévales, hein, qui sont prises dans une Bible de Venise, et c'est une des fresques de San Marco qui sont là. Bon, pour vous montrer que à Venise, ça fait longtemps qu'ils savent que oui, ils savent que le déluge, ça peut conduire à ça. Mais donc, ça veut dire qu'on reprend des vieilles peurs pour s'en servir de menaces sur des dangers, mais en gommant le fait que ces dangers, aujourd'hui, on sait s'en prémunir et on a probablement plus de moyens qu'au XIVe ou XVe siècle pour construire une digue autrement qu'avec un seau, une pelle et un râteau, comme l'ont fait les Hollandais. Voilà. Et puis, ces images, elles montrent quoi en général? Eh bien, qu'il y a des hotspots. Les hotspots du climat, c'est les endroits où personne n'habite. Il y a quand même un problème. Si c'est là qu'est le bien, le vrai, le beau, alors pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Pourquoi on n'y reste pas? C'est l'Arctique, l'Antarctique, etc., les hauts sommets. Et par contre, à l'inverse, tout ce qui est pollué, dégradé, etc., c'est la ville. Là, c'est des images qui sont là aussi encore dans le film de Al Gore, quoi. Alors, dernière chose parmi ces images, c'est les cartes. Et c'est les cartes, je vous invite à les regarder sur les rapports du GIEC, hein, parce que c'est du déni de cartographie. Alors là, je vous ai présenté une carte, où, je suis désolée qu'elle ne se voit pas très bien, mais en gros, c'est la seule chose qu'il y a sur l'adaptation qui pourrait être faite en Europe pour tout ce qui concerne les vivants. J'allais chercher la biodiversité, donc j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé des cartes dans le rapport qui portent sur une sorte de blé, et on a les écarts de rendement en 2030 par rapport à 2000. Alors vous voyez là, la période de référence c'est 2000, sans adaptation, si on ne fait rien, et puis si on s'adapte. Alors en fait, je me suis dit, tiens c'est curieux, tout de suite quand j'ai vu ces cartes, je me suis dit, mais, tiens c'est bizarre, il y a des rendements de blé, et alors c'était un blé d'hiver, de type froment. Alors il faut, je suis désolée que vous ne voyez pas la légende, mais en fait c'est pas dit tout ce que je suis en train de vous dire là, il faut aller chercher, puisque c'est un rapport de GIEC qui compile des articles, il faut aller chercher l'article. Et dans l'article de Donatelli, en l'occurrence d'un italien, on finit par comprendre que donc c'est ce type de blé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, moi je n'ai jamais vu un champ de blé tendre en Corse, en Sardaigne, en Sicile, en Grèce, etc. Bon. Et après je me suis dit, mais pourtant là il y a des rendements, et ces rendements ils sont pas à zéro. Donc comment font-ils pour avoir des rendements qui ne sont pas à zéro? Et en fait, c'est là aussi parce qu'on est dans un modèle. C'est-à-dire, si on cultivait ce blé-là, alors quels en seraient le rendement? Et ce qui est présenté sur cette carte, c'est en 2030 par rapport à 2000, le rendement qu'on obtiendrait compte tenu du changement climatique. Mais le paysan, il n'existe pas. Hein. Et ça, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième élément, c'est que c'est exprimé en pourcentage. Donc, la hausse la meilleure, là où ça va être vert, ben vous le voyez bien, c'est ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Donc si on part en 2000 de 0 tonnes en pourcentage, si on arrive à 0,2 tonnes par hectare et par an, eh ben, ce sera très bien. Alors que dans les régions où on a un bon rendement en blé qui va être aux alentours de 10 ou 12, ben, effectivement, si on gagne une tonne, ça ne fera pas beaucoup en pourcentage. Donc on est dans c'est du délire complet la carte. Elle représente quelque chose qui est du délire. Et ensuite, ici, vous avez un modèle et l'autre modèle qui est à droite. Ce que vous pouvez regarder, parce que ça se voit, par exemple là, là c'est rouge, là ça va devenir vert. Bon, comment se fait-il que deux modèles européens, un allemand, un britannique, donnent pour, les Balkans, etc., des résultats qui sont totalement contradictoires? Bon, ça veut dire que les modèles ne sont pas opérationnels, c'est ça qu'il fallait conclure. Mais vous allez me dire, bon, ils ont bien le droit de faire des modèles et que ça donne des résultats qui soient bizarres. Ok, mais alors à ce moment-là, pourquoi on les met dans le rapport du GIEC? Pour faire preuve que ça va être la catastrophe, parce qu'il y a beaucoup de rouge, parce que le rouge, c'est tout ce qu'on va perdre en rendement. Donc pour moi, c'est vraiment des cartes qui n'ont pas de sens. Et puis en bas, vous voyez, c'est si on s'adapte. Alors effectivement, si les agriculteurs s'adaptent, ben, ça va mieux. Mais est-ce que c'était la peine de faire tourner des modèles pendant je ne sais pas combien de temps pour pondre ça? Moi, je ne suis pas... Alors, je vous dis, allez regarder, parce que c'est vraiment... Alors, moi, je les ai regardés, je me suis posé des questions. La carte en bas, elle vous montre les endroits où qui sont, en fait, plus ou moins coloriés, mais où il n'y a jamais de blé tendre. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a interpellée complètement, parce que j'ai été voir, moi, les statistiques européennes, elles ne sont pas avec ces mailles. Autrement dit, on ne peut pas encore retrouver la donnée de base qui a servi à faire ces cartes. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est du déni de cartographie. Donc, ce que je peux dire, c'est que des images, des cartes, des graphiques, il y en a de plus en plus. Dans les derniers rapports, par exemple, nationaux, les plans, c'est une page sur deux qui est entièrement consacrée à des cartes. Et avec des légendes de 5 lignes incompréhensibles qui, moi, pour moi, carte par carte, moi, en moyenne, je mets 8 jours à les comprendre, moi qui suis climatologue. Donc, je me dis, il y a quelque chose là-dedans, quoi. C'est vraiment parce qu'on ne veut pas que les gens regardent ce qui est représenté. Sinon, on essaierait de faire plus simple. On ne mettrait pas un niveau de complexité. Voilà. Et donc, je pense qu'il faudrait urgemment apprendre la syntaxe et la grammaire des images pour arriver à ne pas se laisser entraîner... Donc, la question qui était posée, c'était que est-ce qu'il y a des informations implicites? Ben, de toute façon, dans les mots, dans les chiffres, dans les images, il y a des choix pour faire passer un message. Et le message qui passe, c'est qu'il y avait un état initial, pas toujours à la même date, et qu'on va vers le moins bien ou vers le dangereux. Et donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, une sorte de climax, mais bon, lutter contre sauver le climat, lutter pour le climat, etc., ça veut donc dire revenir en arrière, puisque le futur sera, est annoncé comme moins bien. Mais vers quoi ? Donc, j'avais mis ça. C'est-à-dire que ça, on retombe sur une très vieille question. Ça, c'est vieux comme, comme Hérodote. Dans l'Antiquité, on se posait déjà la question, c'est quoi le climat idéal ? Et vous voyez, au 19e siècle, on faisait des affiches pour dire, allez à la Baule, c'est là-bas qu'il y a le climat idéal. Le thermalisme, qu'est-ce qu'il a inventé ? Le climat idéal de la montagne, de la mer et tout ce qu'on veut. Bon, je vous ai mis Tenerife qui annonce que c'est le climat le meilleur du monde. Il y a ceux qui aiment le froid, ceux qui aiment le chaud, l'atoll Mardon, Mando Brando, il y a les tropiques. Donc, c'est là ou ailleurs, mais c'est, on se croirait dans Rimbaud. C'est une saison en enfer, quoi. On voit bien que c'est autre chose que du climat. Et puis quand ? Ben, je sais pas. Alors, je vous ai mis ce que vantent les Islandais, c'est-à-dire, t'es pas content avec le climat qu'il fait en ce moment ? Ben, attends 5 minutes. S'il pleut pas, il va pleuvoir, il y aura du soleil, je sais pas quoi. Est-ce que c'est le néolithique dont on parlait ce matin ? Est-ce que c'est 90 ? Est-ce que c'est 2000 ? Est-ce que c'est 1850 ? Moi, je sais pas. Et je pense que c'est impossible qu'il puisse avoir un consensus sur l'espace-temps de cet idéal. Et Stéphane, avec Ami Dahan, vous avez beaucoup employé le mot climat dégradé par rapport à quelque chose, sans vous poser la question. Vous avez dit, le GIEC ne dit jamais dégradation, mais vous dites jamais qu'est-ce que c'était cet initial jubilatoire qui, vers lequel il faudrait tendre. Et moi, je dis, on dit qu'il faut faire quelque chose pour le climat. Bon, l'adaptation, je comprends très bien ce que ça veut dire. S'il fait plus chaud, on peut très bien dire, oui, ça va être inondé, ça ne le sera pas. Voilà. Mais sinon, dans l'absolu, je ne comprends pas ce que ça peut signifier. Et là, je vous ai mis un texte parce que j'aime beaucoup Pierre-Gilles de Gênes, que j'ai rencontré souvent, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions. Et lui, dans les années 90, il me semble que un certain nombre des travers de la manière de faire en environnement d'aujourd'hui, il le posait très très bien. Hélas, il est décédé. Mais il a eu quand même un prix Nobel, donc c'est pas non plus modeste chercheur comme moi.